pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la 23e conférence des Nations Unies sur le climat rassemble 19 000 personnes à Bonn en Allemagne depuis lundi dernier. Deux ans après l'accord de Paris, ratifié aujourd'hui par près de 170 pays, le contexte est tendu. Les catastrophes naturelles et leur ampleur ne cessent de rappeler l'urgence d'agir. Les îles Fidji, qui président cette conférence, le martèlent avec force, un discours qui ne pèse pas lourd face au dédain américain et aux rapports scientifiques et institutionnels qui démontrent à quel point la mobilisation n'est pas à la hauteur. Selon le dernier rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement, les engagements actuels de l'ensemble des États ne couvrent qu'un tiers des réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour limiter le réchauffement du climat et préserver des centaines de millions de personnes d'une vie de misère. Voilà pourquoi l'adaptation va être le mot-clé de cette COP23. Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
L'adaptation au changement climatique, une question de société, société au pluriel. 400 pages publiées aux éditions du CNRS pour mieux comprendre l'ampleur de ce défi. Plusieurs dizaines de chercheurs, spécialistes et responsables d'organisations ont contribué à cet ouvrage sous la direction de nos deux invités. Bettina Laville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du comité 21, que je vous laisse présenter en quelques mots.
Alors le comité 21 est une association qui a été fondée au lendemain de la conférence de Rio en 1992 et qui réunit des adhérents qui sont des entreprises, qui sont des associations, des organisations non gouvernementales, qui sont aussi des collectivités locales et des représentants de l'État. C'est un peu, si vous voulez, la préfiguration de ce qui fut après le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire mettre tous les acteurs autour d'une table pour ce qu'on appelait à l'époque l'agenda 21.
Et donc vous vous êtes réunis avec le CNRS une nouvelle fois, hein, parce que vous avez déjà commis, j'ai envie de dire, d'autres livres. Donc avec vous, Agathe Zen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe scientifique à l'Institut écologie et environnement du CNRS, le Centre national pour la recherche scientifique. Et là, donc, vous publiez avec cet ouvrage un ouvrage qui fait le tour, ou en tout cas, c'est l'ambition de cette question de l'adaptation. On va revenir sur la notion de définition, mais c'était quoi l'ambition de cet ouvrage ?
Oui, effectivement, c'était un bel enjeu que de réunir plus de 70 contributeurs autour de cette question de l'adaptation. On parle de l'adaptation. Mais finalement, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? C'est pas juste un terme onusien, c'est pas juste dans les accords, mais c'est aussi un terme qui fait référence à une évolution, notamment du milieu vivant, à l'évolution de la société. Et donc, il s'agissait de réunir différentes compétences. Une bonne trentaine de disciplines doivent être représentées pour faire le tour de ce que chacun entend par adaptation, afin de le mettre au service de la problématique du climat, pour venir contribuer à la réflexion et à la négociation pour la mise en œuvre de l'accord de Paris.
Alors Bettina Laville, vous avez écrit plusieurs articles, vous aussi, dans ce livre. Comment vous définiriez le terme d'adaptation qu'on oppose souvent à atténuation ? Il faut faire un petit peu de pédagogie pour les auditeurs.
Alors, d'une part, comme le dit Agathe, l'adaptation est une notion scientifique, qui a une histoire scientifique, je veux dire, qui n'est pas exactement l'évolution, mais qui fait partie de l'évolution, et qui, en plus, se rattache à plusieurs sciences, des sciences dures, mais aussi des sciences humaines, et aussi, ça c'est quelque chose à quoi moi je tiens beaucoup, un aspect psychologique, psychosociologique. C'est d'ailleurs pas pour rien que notre livre s'appelle Une question de société avec un S, si vous voulez. Alors pour dire que d'abord, l'adaptation au changement climatique est complètement différente suivant les sociétés, qu'elles soient riches ou pauvres d'une part, qu'elles soient du nord ou du sud, qu'elles aient déjà une pratique de l'adaptation, je veux dire, parce que ce sont des sociétés qui ont été souvent menacées ou non, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu dire, et je crois que l'abondance de disciplines le prouve, c'est que l'adaptation au changement climatique, c'est la question véritablement, et je dirais même malheureusement, actuelle. Quand on se retourne sur l'histoire de la Convention, il y a l'atténuation, Et ça continue. Ça a été
donc
le
c'est
grand
atténuer
enjeu.
Les émissions de gaz à effet de serre, faire en sorte qu'il y en ait moins. Voilà, donc c'est par exemple développer les énergies renouvelables.
Oui, en fait, l'atténuation, c'est vraiment contenir le climat à une hausse pendant le 21e siècle de moins 2, allez, soyons encore plein d'espérance, 1,5 degré, comme le dit l'accord de Paris, en tout cas 2 degrés. Donc l'atténuation, c'est ça, c'est le même sujet depuis la signature de la Convention 1992, et on s'accroche à ces 2 degrés, même si, moi je ne pense pas qu'on y arrive. Je veux dire, il faut quand même un jour dire les choses clairement.
Bon. D'où la nécessité de l'adaptation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je citais le programme des Nations Unies pour l'environnement là, qui disait qu'il y avait seulement un tiers des réductions d'émissions qui étaient sur la table aujourd'hui. C'est vrai que les scénarios mis sur la table par les scientifiques ne sont pas très optimistes aujourd'hui.
Non, actuellement, il est vrai que vu la façon dont chacun des États prend en compte et prend en charge la question, s'il n'y a pas un changement drastique des systèmes de développement, des différentes énergies qui sont utilisées, du développement industriel, d'exploitation des ressources, etc. Par la force des choses, je dirais, la machine est lancée. Et pour la ralentir, on sait bien que c'est beaucoup plus, il faut beaucoup plus de temps. Et donc, il est extrêmement...
Si aujourd'hui on arrêtait d'émettre la moindre particule, il y aurait, je crois, 60 ans avant que ça ait une conséquence réelle sur le climat.
Mais c'est ça. Le problème, c'est que, et c'est aussi l'enjeu et l'importance de négocier et de réfléchir aujourd'hui sur les actions à mener, c'est qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas nos générations qui allons voir nécessairement les choses, c'est les générations futures. Donc c'est d'autant plus difficile, outre le fait que maintenant on ait les pieds dans l'eau, on soit confronté aux ouragans, on soit confronté à des situations, d'événements extrêmes particuliers qui nous font prendre conscience de la réalité des choses. En revanche, ce sont les générations futures qui, elles, finalement, vont hériter de la décision et des actions qui vont être prises aujourd'hui pour voir comment la situation aura évolué d'un point de vue climatique, environnemental, dans le cadre d'un changement global.
Enfin, si vous permettez, moi je suis un tout petit peu plus nuancée qu'Agathe, et peut-être plus pessimiste, ça doit venir du fait que je suis plus âgée qu'elle, mais j'ai eu la chance et l'honneur d'être la négociatrice française de la conférence de 92, et donc je croyais déjà au réchauffement climatique et à ses dangers, mais je ne pensais pas du tout que j'en verrais concrètement les prémices. Et je ne pensais pas non plus à l'époque que mes enfants en verraient les prémices, peut-être mes petits-enfants. Et finalement, 30 ans, enfin, même pas 30 ans après, nous en voyons les prémices. Regardez la multiplication des phénomènes extrêmes, etc. Regardez la montée des eaux, regardez les canicules et tout. Et donc, ça veut dire que non seulement nous, dans notre génération, en tout cas la mienne, on voit ces prémices, mais que les années terribles qu'on disait être 2050, 2060, si on ne prenait pas des mesures drastiques, seront peut-être 2030 ou 2035 ou 2040. Et ça, il y a en ce moment une accélération vertigineuse qui atteste, comme vous l'avez dit, qui sont attestés par des rapports de l'ONU, etc., avec et d'énormes blocages étatiques, on voit bien les États-Unis, malgré l'accord de Paris, et puis de l'ensemble de notre système.
Donc comme on a du mal à faire de l'atténuation, il faut miser sur l'adaptation.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi, mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
À l'occasion de la 23e conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroule à Bonn en Allemagne depuis lundi, nous parlons de l'adaptation au changement climatique. Une question de société, c'est le titre du livre publié par les éditions du CNRS, coordonné par nos deux invités, Bettina Laville, présidente du comité 21, et Agathe Zen, directrice adjointe scientifique à l'Institut écologie et environnement du CNRS.
Et Stéphanie Thiebaud.
Et Stéphanie Thiebaud, oui, que je ne cite pas depuis le début, trois auteurs, femmes, c'est quand même à saluer. Alors l'agronome biologiste Pierre-Henri Gouillon, que vous venez d'entendre, nous incite à apprendre à nous fixer des limites. Voilà peut-être une stratégie d'adaptation, mais c'est compliqué car comme vous l'écrivez, Bettina Laville, hein, nous avons du mal à regarder le problème en face. C'est-à-dire que vous disiez, on commence à voir les conséquences des changements climatiques, c'est vrai, mais on a ce que vous appelez une dissonance cognitive face au changement climatique qui fait que finalement, on se dit, bah, on va remettre tout ça à plus tard, ou on n'y va pas franco-franco, quoi.
Moi, c'est un des problèmes qui, depuis que je m'occupe d'environnement, c'est-à-dire il y a vraiment maintenant, ça commence à faire longtemps, me fascine absolument. C'est-à-dire que nous avons, par la science, par tous les résultats du GIEC, du Groupement Intergouvernemental des Scientifiques du Monde, une connaissance de plus en plus affûtée, en fait, de tous ces phénomènes. Et d'autre part, l'ensemble de la surveillance terrestre par les satellites nous donne des observations tout à fait extraordinaire. Alors, il y a une conscience. Alors aujourd'hui, il y a 20 ans, j'aurais dit il y a une conscience d'une petite poignée de gens. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une conscience énorme, mais même un malaise très important de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire, en clair, de tout le monde, de vous et moi, etc. Mais il y a deux phénomènes qui me paraissent tout à fait considérables. Le premier phénomène, c'est que bouger... Alors, dans le sens des limites, comme vous dites, ou dans le sens d'une véritable transformation de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de pensée, c'est extraordinairement difficile. Et c'est extraordinairement difficile parce qu'en plus, on est 7 milliards, bientôt 9. Et c'est aussi extraordinairement difficile parce qu'il y a des rancœurs entre les États, c'est-à-dire que les pays du Sud, depuis la conférence de 1992, disent « tout ça, c'est de votre faute, mais vous, vous en avez profité ». Et les pays du Nord disent « ah oui, mais maintenant, on est dans le même navire et donc il faut qu'on fasse tous les mêmes efforts ».
Même si les pays africains, notamment, qui sont en plein développement, acceptent de dire qu'ils vont devenir une part aussi du problème et qu'ils doivent se développer différemment de ce qu'a fait l'Occident, notamment avec les énergies renouvelables. Avec la préservation des forêts, etc. Mais ça pose de vrais problèmes.
Ça, c'est sûrement le grand succès. Mmh. Moi, je ne pense pas que l'accord de Paris soit le succès qu'on a dit. Mais ça, c'est un succès. C'est-à-dire, effectivement, on est arrivé à faire partir tout le monde ensemble. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème philosophique, je crois, très très important, sur lequel je pense que les philosophes ne se penchent pas assez, qui est le fameux problème de l'apocalypse, en fait. Hein, je veux dire, sans employer de grands mots. C'est-à-dire, quand un phénomène très grave ou apocalyptique, pour prendre l'histoire humaine, arrive, qu'est-ce qu'on fait, je veux dire ? Est-ce qu'on se retrousse les manches ou est-ce qu'on est sidéré ? Jean-Pierre Dupuis, par exemple, parle de la sidération devant ce problème qui est ce que Diamant a parlé d'effondrement, etc. Et ça, je pense que c'est peut-être, enfin en tout cas, moi à titre personnel, c'est pour ça que je milite vraiment pour l'adaptation, parce que je pense que l'adaptation, c'est la mobilisation de toutes les facultés humaine, intellectuelle et politique permet de faire face également et pas simplement de se dire on va se battre contre les réchauffements.
Mais le problème, Agathe Ozenne, et vous consacrez un chapitre que vous écrivez dans ce livre à cela, c'est que nous ne sommes pas tous égaux pour nous adapter. La survie des peuples autochtones, ou qu'on appelle aussi sociétés traditionnelles, par exemple, dépend directement de l'état de leur environnement, ce qui n'est pas le cas, en tout cas à court terme, d'une personne qui vit dans une mégapole, par exemple.
Ces populations, en fait, sont connues pour avoir une relation intime et très fine avec le milieu qui les entoure, qui est à la fois une source, un lieu symbolique, un lieu de ressources et un lieu territorial qui leur donne une identité. Et bien souvent, ce sont des gens dont les richesses économiques, on va dire, sont bien moins grandes que dans d'autres pays. Et que donc, c'est parfois des gens qui sont assez vulnérables et qui aussi sont souvent les premiers touchés par rapport à des actions que les États veulent mener pour répondre à des intentions internationales, comme le fait de développer tout ce qui relève de l'agriculture pour faire des agrocarburants, par exemple. Donc ça veut dire exploiter de nouvelles terres, etc. Mais c'est aussi, du coup, éventuellement, déplacer des populations pour répondre à des exigences qui sont globales. Donc l'enjeu local n'est pas... Et de la même manière, la construction de barrages, on va dire, c'est pour de l'énergie non carbonée. Mmh. Mais qu'est-ce que veut dire construire un barrage ? Ça veut dire qu'on a besoin de place et qu'on va capter des ressources qui peuvent avoir un sens, une valeur, des fonctions écologiques, humaines, qui du coup, je dirais, ne sont plus du tout respectées par rapport à ce qu'elles étaient. Et donc, ça peut créer des déséquilibres entre les communautés, entre les économies, et donc, du coup, avoir des incidences réelles sur l'harmonie que chacun et les populations ont avec l'environnement dans lequel ils sont.
Surtout que l'adaptation pour les peuples autochtones, c'est souvent la rupture. Hein. Par exemple, ce sont des peuples nomades, je pense en Afrique subsaharienne, qui sont obligés de se sédentariser pour être au plus proche des poches d'eau, parce qu'il voilà, n'y en a plus ailleurs.
Alors, exactement. Alors, ça montre bien les dynamiques et que rien n'est stable. Et cet exemple de ces pasteurs nomades, par exemple, que peuvent être les Peuls, qui se déplacent avec leurs troupeaux, qui sont en fait leurs banques sur pattes, avec les troupeaux vers les zones où il y a le pâturage, vers les zones où on va trouver des ressources en eau de façon plus pérenne. Et avec évidemment des situations de sécheresse qui peuvent être exacerbées ou accentuées selon les saisons. L'obligation soit de se déplacer de plus en plus vers les régions qui sont moins sujettes aux questions de sécheresse, soit, et ça c'est souvent de la volonté des États, de créer de nouveaux lieux de rassemblement autour de points d'eau. Donc ça veut dire creuser des forages, mais vous comprendrez aussi que creuser des forages, ça veut dire obliger les populations à se sédentariser, qui d'un point de vue politique est bien plus pratique que d'avoir des gens qui se baladent partout.
Et ça crée aussi des conflits avec les agriculteurs. Enfin voilà, là on est au cœur même des enjeux de l'adaptation, c'est extrêmement compliqué. Puis reste la question des financements, hein, puisque s'adapter ça coûte cher, faut modifier l'habitat, repenser les villes, l'agriculture. Et comme le rappelait récemment et de manière très virulente, Frank Bainimarama, qui est le premier ministre fidjien, allouer seulement 10% des financements climat à l'adaptation constitue à la fois un véritable déséquilibre et une injustice flagrante, Bettina Laville. Là, on est au cœur des négociations et de ce qui se discute à Bonn.
Oui, c'est exact. Mais on voit bien qu'à Bonn, il y a deux sujets. Un qui s'appelle les pertes et dommages. Et ce n'est pas de l'adaptation, c'est de la compensation. Et là, les îles Fidji tiennent énormément à cela. Les organisations non gouvernementales demandent pour les pertes et dommages 50 milliards de dollars.
C'est-à-dire quand il y a eu une catastrophe, on souhaite avoir de l'argent pour réparer.
Voilà, la réparation, etc. Alors, c'est un problème énorme. On le voit bien, on l'a bien vu dans notre pays pour ce qui vient de se passer dans les Caraïbes, etc. C'est un problème énorme pour le budget des grandes compagnies d'assurance qui pour l'instant font face, mais un jour, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, ou bien elles vont relever terriblement leurs tarifs d'assurance par rapport aux catastrophes naturelles, ou bien il y aura de très très importants regroupements de compagnies d'assurance avec des capitaux qui vont changer de main, etc. Donc vous avez ce problème-là. Mais vous avez le problème de l'adaptation qui aurait dû être en partie résolu dans la négociation à Marrakech, puisque lors de la COP22, le Maroc avait dit je tiens aux 3 A, n'est-ce pas? Et un des 3 A, c'était l'adaptation. Il y avait Afrique, adaptation, agriculture. Bon, alors il y a eu des fonds, il y a eu des initiatives, il y a eu un peu d'argent sur la table, mais absolument pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que Fidji, évidemment, porte une catastrophe déjà arrivée très souvent dans l'ensemble des petites îles du Pacifique, déjà maintenant Caraïbes et dans d'autres îles. Donc ça, c'est les pertes et dommages. Mais ce n'est pas vraiment l'adaptation, c'est la compensation, c'est la résilience. La résilience, c'est juste entre les pertes et dommages et l'adaptation, vous voyez. Et l'adaptation, c'est vraiment du financement de long terme. Et le long terme, c'est ce qu'il y a de plus difficile à financer.
Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sous dans la caisse, on peut le dire, je pense, pour synthétiser.
Il n'y en a pas assez, ça,
clairement,
c'est
clair. Comme cela. Merci à toutes les deux d'être passées dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre ouvrage collectif, L'adaptation au changement climatique, une question de société. C'est publié aux éditions du CNRS. Et s'il y a un pays qui tente de s'adapter, c'est bien le Costa Rica qui a annoncé une neutralité carbone, c'est-à-dire une compensation totale de ses émissions d'ici 2021. Nous allons, juste après le flash d'info, au Costa Rica pour voir ce qui se cache comme réalité derrière ces engagements. À tout de suite.